La vie des idées avec Mathieu Bock-Côté.
Alors, chers amis, ici Mathieu Bock-Côté et bienvenue à La Vie des idées. Une question a longtemps habité les passions politiques au Québec et la réflexion politique en général, c'était celle de ce qu'on appelait autrefois les minorités, c'est-à-dire les Canadiens français hors Québec. Cette question, avec la Révolution tranquille, s'est peu à peu éloignée dans la conscience collective. Elle continue d'occuper nos préoccupations minimalement, mais elle n'occupe plus la place centrale qu'elle avait dans notre pensée politique pendant longtemps. Quelle est la place aujourd'hui de ceux qu'on appelle les francophones hors Québec? Quel est leur avenir? Quelle est leur situation? Dans quelle mesure peuvent-ils espérer survivre? Dans quelle mesure peuvent-ils espérer vivre? Quelles sont leurs attentes à l'endroit du Québec d'une manière ou de l'autre? Ce sont ces questions que je poserai aujourd'hui à Linda Cardinal, qui a la gentillesse de se présenter à ce micro. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Alors, une question première par rapport à cette question des francophones hors Québec. La question revient souvent, elle fait partie presque du vocabulaire politique québécois lorsqu'on en parle. On dit d'une certaine manière qu'ils sont soit déjà morts, soit sur le respirateur artificiel, soit qu'ils survivent, soit qu'ils sont condamnés. On redit ça tout le temps, et pourtant ils survivent d'une manière... ils continuent de survivre assez longtemps quand même. Quelle est la situation des francophones hors Québec, en général, on pourrait dire, et ensuite en particulier là où les meilleurs foyers de résistance?
Bien, d'abord, en général, habituellement, quand on parle des francophones hors Québec, on parle des nombres, hein, parce que c'est comme une épée de Damoclès qui nous pend sur le dessus de la tête sans arrêt, parce que les francophones hors Québec, ce qu'on passe notre temps à faire, c'est calculer leur espérance de vie et savoir quand est-ce que le dernier francophone hors Québec va appuyer sur l'interrupteur pour fermer la lumière du français à l'extérieur du Québec. Donc, on dit en général qu'il y a à peu près 1 million de francophones hors Québec, il y a à peu près 1 million de francophiles.
Quand on définit francophone, on veut dire des gens qui vivent en français.
Des gens qui, selon les catégories de Statistique Canada, parce qu'il y en a plusieurs, il y a la catégorie de français langue maternelle, français langue d'usage et première langue officielle parlée. Alors moi, je dirais que quand on parle des 1 million, on est généreux et on parle probablement des premières langues officielles parlées. Parce que si on met la langue maternelle, il y en a peut-être plus, mais si on regarde ceux qui utilisent le français, il va en avoir beaucoup moins. Parce qu'en milieu francophone hors Québec, il y a une certaine ambiguïté. D'une part, l'assimilation est quand même assez importante. 40% dans certaines régions de l'Ontario, 60% dans certaines régions de l'Ouest. Mais en même temps, une grande stabilité malgré tout, parce que, comme vous le disiez au début, on en parle encore, ils sont toujours là, et il va toujours en avoir des francophones hors Québec. C'est juste que c'est la légitimité du français qui est toujours en jeu en fonction des nombres dont on parle. Et l'autre situation qui rend cette francophonie ambiguë et un objet un peu étrange, c'est qu'en même temps, elle est très dynamique malgré tout, parce que, et ça, le PQ l'avait même reconnu en 95, dans sa première politique à l'intention des minorités francophones, c'est malgré tout, c'est des groupes, des communautés où il y a des groupes qui sont très dynamiques, qui font plein d'activités, qui interviennent beaucoup dans leur province même. Prenez le Nouveau-Brunswick, prenez l'Ontario, même le Manitoba, même l'île du Prince-Édouard, c'est-à-dire il y a toujours une activité sans cesse autour du français dans ces provinces.
Alors, on dit francophone hors Québec, la formule est forte en un sens, oui. C'est-à-dire elle pose un point de gravité pour le fait français qu'est le Québec, et ensuite ceux qui ne sont pas dans cette normalité francophone qu'est le Québec. Est-ce que les francophones hors Québec, comme on les appelle, ou les Canadiens français d'ailleurs, je serais curieux de savoir comment ils se nomment eux-mêmes, quel est leur rapport au Québec? Est-ce qu'ils acceptent ce côté central du caractère du fait français au Québec et du fait français au Canada, oui, qu'ils se trouvent au Québec? Est-ce qu'ils acceptent ça? Et aussi, je relance la question vraiment, comment se nomment-ils eux-mêmes? Oui. Est-ce qu'ils y vont par province, Ontarois, Saponier, Fransaskwa, la formule a eu de l'écho, ou on se retrouve encore avec des, oui, Canadiens français?
C'est très intéressant comme question et je vous remercie de me la poser. Dans les années 90, il y a eu un basculement. Vers 1990-92, les francophones hors Québec ont décidé qu'ils n'étaient plus des francophones hors Québec. Et que le Québec comme norme n'allait plus être l'élément définisseur de leur identité. Alors à ce moment-là, autour de leur organisme, qui est la Fédération des communautés francophone et acadienne du Canada, qui avant s'appelait la Fédération des francophones hors Québec, a changé de nom. Et ce moment-là est quand même symboliquement important dans la façon de redéfinir son identité. Ensuite, par rapport à l'identité canadienne-française, bien, le gouvernement fédéral a imposé une certaine identité à ces francophones parce qu'il a décidé que c'était des francophones. Hein? Des francophones de langue maternelle, des francophones de langue d'usage, des francophones de langue maternelle ou langue première officielle parlée. Et du coup, on a perdu un certain ancrage historique par rapport à cette idée d'une francophonie historiquement ancrée dans un Canada français. Il y a quand même des traces qui perdurent. À cause de ce changement de nom, Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada, vous remarquerez qu'Acadien est demeuré Acadien, parce que c'est un peu la société distincte du Canada hors Québec. Les francophonies ont commencé à s'appeler des communautés francophones, mais on a encore en Ontario des franco-ontariens, des acadiens, il y a des francsasquois, il y a des franco-manitobains, donc il y a une sorte de coexistence de plusieurs paliers identitaires. Moi, je dirais que dans ce sens-là, les milieux francophones hors Québec, pour les appeler ainsi, c'est une réalité assez multinationale d'une certaine façon, parce qu'il y a les relents du Canada français, il y a l'Acadie qui se définie comme une nation. Ensuite, c'est une réalité très multipolaire parce que d'un côté, il y a les franco-ontariens qui représentent un pôle par rapport aux Acadiens, mais aussi par rapport aux franco-manitobains. C'est une réalité très plurielle parce que dans les milieux minoritaires, on parle toujours de diversité, de l'importance de la diversité puis de l'inclusion parce qu'on n'est pas nombreux. Donc, les gens pensent qu'avec ce discours-là, ils vont aller avoir un pouvoir d'attraction plus grand. Donc, finalement, dans les milieux francophones hors Québec, des fois, on est des communautés francophones, d'autres fois, on est des milieux minoritaires parce que le langage juridique, c'est de dire c'est des minorités de langues officielles ou des communautés minoritaires, est aussi un langage, une identité qui demeure ancrée, enracinée dans un territoire, mais qui est peut-être plus autant le Canada français, mais qui est l'Ontario français, l'Acadie du Nouveau-Brunswick ou l'Acadie des Maritimes, le Manitoba francophone, etc.
Et je reprends la question sur le Québec. Ils ont voulu rompre avec le Québec d'une certaine manière pour s'en autonomiser. Je vous relancerai tantôt sur la question des États généraux à la fin des années 60, c'est-à-dire ce moment de rupture, du moins dans l'imaginaire québécois, le moment où la rupture arrive. Mais dans la situation présente, est-ce qu'on peut dire que les francophones hors Québec, vous me pardonnerez cette formule qui me vient presque naturellement, est-ce qu'on peut dire qu'ils ont encore néanmoins des attentes par rapport au Québec? Est-ce que pour eux, le Québec demeure quelque chose comme le navire amiral, la francophonie canadienne, pour le dire ainsi, ou est-ce que, d'une certaine manière, on cultive une forme d'indifférence?
Mais avec le changement normatif, hein, où du coup on essaie dans les milieux minoritaires de se donner un autre pôle, hein, de représentation de son identité, le rapport avec le Québec change. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en 92-93, au même moment où on change cette appellation de francophone hors Québec à communauté francophone et acadienne, on veut aussi redéfinir la relation avec le Québec. Et en 93, on continue de voir le Québec comme un partenaire de la Fédération canadienne et comme un pôle très important. Et dans les faits, le Québec continue d'être ce pôle parce que la Fédération des communautés francophones et acadiennes du Canada a quand même un bureau à Québec. Et il y a quelqu'un à Québec en permanence qui est un peu l'ambassadeur des communautés francophones à Québec, qui est un peu le pont entre les deux milieux. Donc, quelque part, il y a cette entité qui s'appelle Québec qui demeure importante. Mais il y a quand même une relation très ambiguë parce que, en même temps, les francophones veulent se définir eux-mêmes. Et au lieu de se définir avec le Québec, on commence à se définir contre le Québec.
Oui, ben alors comment ça arrive, ce contre le Québec qu'on peut... Est-ce que c'est lié aux expériences référendaires, à la tentation souverainiste, sentiment d'abandon? Comment on en vient à être contre, finalement, le Québec comme pôle de référence identitaire du fait français au Canada?
Ben, l'idée d'abandon, dans une certaine élite... dans une certaine élite, demeure importante. Et puis, M. Benoît Pelletier, quand il était ministre, il en a parlé souvent, il est revenu là-dessus en disant, ben nous, au Québec, on crée le Centre de la francophonie des Amériques, on veut renouveler cette vision pour rompre une fois pour toutes avec ce sentiment d'abandon. Donc, c'est clair que pour une certaine génération, ça demeure important. Ensuite, il y a eu les velléités référendaires qui ont encore donné lieu à des paroles malheureuses et qui ont fait en sorte que le lien qui était déjà assez faible s'est effrité encore plus.
Est-ce que de 80 à 95, donc les deux référendums, est-ce que les francophones au Québec ont la même politique par rapport aux souverainistes québécois? Est-ce qu'ils sont sympathiques en 80, hostiles en 95, ou est-ce qu'ils sont quel est leur rapport aux souverainistes québécois dans les deux moments?
J'ai pas de données très de sondage à communiquer, mais en 80, il y avait une certaine sympathie parce qu'on sentait qu'on bénéficiait du nationalisme québécois hors Québec. Alors qu'en 95, on sent plus cette vague de sympathie, il y a une hostilité. Faut pas oublier que hors Québec, par exemple, en Saskatchewan, les francophones s'étaient fait dire, si le Québec se sépare, vous perdez tout. Alors, il y a des menaces.
Des leaders canadiens anglais disaient ça?
Oui, des représailles à l'égard. Les gens ont peur des représailles. Donc, les francophones se sentent un peu entre l'arbre et l'Écosse et essaient de faire du mieux qu'ils peuvent pour manifester leur allégeance au Canada tout en maintenant l'importance du français. Donc, une façon de le faire, c'est de taper sur le Québec aussi. C'est toujours de s'associer aux gagnants pour dire, écoutez, nous, on n'est pas comme eux. Alors, évidemment, ce sentiment-là est fort. Et puis encore aujourd'hui, je vous dirais qu'à l'extérieur du Québec, il y a cette idée que les Québécois sont repliés sur eux, qu'ils comprennent pas la diversité, que c'est des gens qui sont pas nécessairement, au fait de ce qui se passe vraiment dans le monde. Il y a cette idée du repli québécois toujours, peut-être pas partout, mais disons que ça, c'est fort. Puis en même temps, quand M. Couillard est arrivé au pouvoir et que Mme Wynne est arrivée au pouvoir, ils se sont rencontrés pas longtemps après. Et puis, il y a quand même des rapports de bon voisinage entre le Québec et l'Ontario ou entre le Québec et le Nouveau-Brunswick. Et on sent pas à un autre niveau aucune hostilité entre les leaders. Et même à ce moment-là, les porte-paroles des groupes vont toujours être au devant de la scène pour dire comment c'est important cette relation. Donc, c'est un peu torturé finalement comme rapport entre les deux. Mais je dirais pas qu'il y a une grande sympathie pour le Québec de façon générale. Et en même temps, Il y a une attente énorme toujours de la part du Québec. Comme en ce moment, il y a une grande attente. Je pourrais vous dire qu'hors Québec, on comprend pas comment ça se fait que les fédéralistes du Québec sont si peu intéressés dans le Canada ou sont si peu intéressés par les langues officielles ou le fait que, en tant que pôle d'une francophonie nord-américaine, le Québec a une responsabilité particulière dans les Amériques et dans le Canada et on sent pas que le Québec joue ce rôle.
Est-ce que le Québec, je reviendrai dans quelques instants sur les états généraux, mais est-ce que le Québec a cherché à entretenir d'une manière ou de l'autre des liens, on pourrait dire de qualité, avec les francophones hors Québec? Est-ce qu'il a cherché d'une manière ou de l'autre à organiser à son avantage la francophonie canadienne? Ou est-ce que l'abandon dont on parle, est-ce qu'il est réel finalement?
Non, moi je dirais pas que c'est un abandon réel, c'est un abandon imaginaire, parce que même au moment des états généraux, dans les années 60, où le Québec décide qu'il privilégie sa propre autodétermination par rapport à celle du Canada français dans son ensemble, les partis politiques ont constamment eu une préoccupation. Les partis politiques se sont constamment interrogés sur quelle va être notre politique. À l'époque, il y avait une politique pour le Canada français outre-mer. Outre-frontière, oui, oui. Pardon, excusez-moi, outre-rivière. Donc, il y avait une politique. Et après, cette politique-là, elle a été renouvelée, même, c'est le PQ qui a renouvelé cette politique, en fait. C'est-à-dire, les libéraux ont eu une attention particulière, mais le PQ aussi a eu une attention. C'est en ce moment, je dirais, qu'il y a le plus grand vide. Le gouvernement du Québec a une politique, a des relations. Il y a des représentants du Québec à Toronto, Nouveau-Brunswick. Il y en avait beaucoup plus avant. Il y en a beaucoup moins. Je pense qu'il en reste un dans l'Ouest canadien. Il y a des activités du Québec à l'extérieur du Québec, en francophonie. Mais on sent pas que c'est un moteur de l'action du Québec dans le reste du Canada. Et en plus, aujourd'hui, il y a des partis politiques qui se posent même pas la question. Si on pense à la CAQ, c'est-à-dire la CAQ n'a rien dans son programme par rapport aux francophones hors Québec.
Alors, on l'a évoqué à quelques reprises, un moment mythique dans l'histoire du Canada français, c'est les États généraux des années 60, où on dit que c'est le Canada français constate à ce moment-là sa fracture. C'est-à-dire, d'un côté, vous l'avez évoqué, les Québécois font le choix d'une autodétermination québécoise plutôt que canadienne-française à la grandeur du Canada. De l'autre côté, les Canadiens français hors Québec se disent, mais qu'est-ce qui nous arrive? Est-ce qu'on fait encore partie de ce projet d'une manière ou de l'autre? Est-ce qu'on a surinvesti symboliquement au fil du temps les États généraux? Est-ce qu'ils ont l'importance qu'on leur prête dans l'histoire du Canada, dans l'histoire du Canada français? Est-ce qu'autrement dit, les États généraux ont vraiment eu l'importance qu'on leur prête dans le divorce, finalement, entre Québécois et Canadiens français hors Québec?
Ben, il y a différentes écoles de pensée là-dessus, mais moi, je dirais qu'on a beaucoup instrumentalisé politiquement les États généraux, parce que quand on dit il y a eu un abandon, c'est très fort comme discours. C'est une façon de culpabiliser l'interlocuteur devant soi pour qu'il y ait une intervention. Mais je pense que cette tension ou ces difficultés de la relation Québec hors Québec a toujours existé, si ce n'est même qu'en 1867. Le véritable abandon, à mon avis, est en 1867, quand la Constitution canadienne ne prévoit strictement rien pour les minorités qui font partie des provinces fondatrices comme l'Ontario et le Nouveau-Brunswick, alors qu'il y a, et c'est pas par hasard que les Acadiens étaient contre la Confédération, et les Ontariens ont été laissés à eux-mêmes. Il y a que les Anglo-Québécois qui sont protégés dans la Constitution de 1867 et, évidemment, avec l'article 93, l'école confessionnelle, les catholiques, les protestants, mais on sait que c'est pour les Anglo-Québécois encore une fois. Donc, il me semble que là, il y a une déchirure vraiment importante. Et même dans les discours de Georges-Étienne Cartier, il n'y avait aucun intérêt pour les francophones hors Québec. Donc déjà là, si on dit qu'il y a une partie des pièces maîtresses du nationalisme canadien-français se met en place à ce moment-là, il y a déjà une division dans ce nationalisme-là entre
de la simple constitution d'une communauté politique autour du Québec,
oui,
finalement.
Oui, il y a déjà un nationalisme centré sur le Québec, et il va y en avoir un autre qui prend le Canada pour objet. Et donc, cette tension-là, à mon avis, et c'est pas du révisionnisme que de dire ça, je pense que ça s'appuie sur les faits. Déjà, donc, au 19e siècle, cette tension, cette difficulté, elle est présente. Ce qui a fait en sorte qu'on a un peu recouvert cette tension, ou en tout cas, on l'a résorbée, à mon avis, c'est l'Église catholique qui, elle, a un discours très unitariste.
Oui, oui, oui.
Un discours de l'unité, de la foi, de la langue, etc. Là, on débat à savoir si la langue protège la foi ou la foi protège la langue. Mais là, il y a une sorte d'unité qui se fait du Canada français dans un certain type de discours. Mais dans le réel politique, ce Canada français, il est toujours divisé, à mon avis. Et le fédéralisme va accroître cette division.
Alors, que représentent les fameux États généraux? Est-ce qu'ils, dans l'histoire du Canada français, qu'est-ce que c'est les États généraux?
Je pense que dans une certaine école de pensée, c'est la fin du Canada français. Mais c'est la fin d'un certain type de Canada français. C'est la fin du Canada français unifié de l'Église catholique qui doit laisser aller le pouvoir de définition du Canada français sur le plan sociologique. Et c'est ce pouvoir-là qui va être transmis dans les mains de l'État. Et les États au Canada, ils sont soumis à la règle du fédéralisme. Ils sont fragmentés. Et c'est à partir de là qu'on assiste à une fragmentation du Canada français, parce que le Canada français est pris en charge par les gouvernements. Et les gouvernements, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils gèrent leur propre milieu. Ils gèrent leur propre province. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à mettre vraiment la pression sur le Québec pour lui dire qu'il y a une responsabilité particulière dans l'ensemble du Canada. Mais à mon avis, le Québec n'aura jamais été capable de proposer un discours normatif aussi fort que l'Église catholique l'aura fait.
On dit quelquefois que le gouvernement fédéral, surtout à partir des années 80, surtout à partir de 82, à instrumentaliser les minorités francophones pour être capable de se créer finalement une classe de francophones fédéraux qui ne soit pas fidèle au Québec. Disons c'est comme ça. Donc la volonté de dissocier le fait français du fait québécois, donc créer un Canada bilingue qui ne reposerait pas sur le fait français au Québec. Est-ce qu'on peut dire que ça correspond à une réalité, cette instrumentalisation des Canadiens français hors Québec par Ottawa pour donner l'image d'un Canada bilingue sans avoir à le faire reposer sur une dualité nationale forte?
Moi, je dirais que oui. Parce que dans mes travaux, je l'ai vu souvent, puis même moi, je l'ai dit dans mes travaux, je l'ai déjà écrit, qu'il y a eu une instrumentalisation, oui, des francophones hors Québec. parce que Trudeau, dans ses écrits, on voit bien, pour lui, c'est le fédéral qui va être responsable du Canada français. C'est pas le Québec qui est le seul responsable du Canada français. Cette légitimité-là, elle lui revient à lui comme premier ministre du gouvernement fédéral. Et il veut, dans le fond, quelque part, Trudeau est peut-être l'héritier de Bourassa, à bien des égards. Sûr. Parce que lui, il veut un Canada français d'est en ouest. Qui est égal au Canada anglophone ouais. d'est en ouest. Et il voit des Canadiens d'expression française et d'expression anglaise partout à travers le Canada. Donc, il ne voit pas un enracinement particulier, mais il voit des gens qui se promènent partout à travers le Canada et qui pourront passer d'une langue à l'autre. Donc, c'est
une conception un peu désincarnée de l'identité, cela dit.
Complètement fonctionnaliste, complètement fonctionnel, c'est-à-dire là où c'est... là où on parle français, on parlera français. Là où on parle anglais, on parlera anglais, comme si on pouvait passer comme ça d'une langue à l'autre, d'un registre culturel à l'autre. C'est comme si les registres culturels n'existaient plus. Et les francophones hors Québec ont quand même profité de ce type de discours-là, parce que ça leur a ouvert des portes au sein du gouvernement fédéral. Mais c'est très clair, il y a des documents qui le démontrent, que pour des raisons d'unité nationale, il faut s'intéresser aux communautés francophones hors Québec. C'est l'intérêt de la nation canadienne qui est en jeu. Donc, c'est dans ce sens-là, oui, il y a eu une instrumentalisation, mais en même temps, ça s'est retourné un petit peu contre les francophones hors Québec, dans la mesure où c'est sur eux maintenant que repose le régime des langues officielles.
Développer un peu sur cette idée?
C'est-à-dire que la bataille pour les langues officielles au Canada, c'est les Franco-Ontariens, c'est les Acadiens, c'est les Franco-Manitobains qui l'amènent. Les réformes qu'on demande à la loi sur les langues officielles, parce que la première loi sur les langues officielles, je dirais, c'est une loi pour les Québécois. Celle de 1969. Elle a trois parties. Une première qui dit qu'il faut que le gouvernement veut donner des services en français et anglais dans ses institutions. Donc, c'est le bilinguisme institutionnel. Deuxièmement, ça prend une représentation équitable de francophones et d'anglophones. Et on sait que c'est en écho à la commission sur le bilinguisme et le biculturalisme où on a dénoncé l'absence de francophones dans la fonction publique. Et troisièmement, la création du poste de commissaire aux langues officielles. Et on pensait que cette loi-là allait répondre aux réclamations du Québec à l'époque. Et on peut dire que dans les années 60-70, les Québécois à l'intérieur du gouvernement libéral de Trudeau vont porter le dossier des langues officielles. C'est-à-dire, on va certainement instrumentaliser les francophones hors Québec, mais ça s'inscrit quand même dans une idée nationale. Alors qu'en 1988, quand on reformule la loi sur les langues officielles. Moi, je dirais qu'à partir de ce moment-là, la loi sur les langues officielles devient la loi des minorités de langues officielles parce que cette loi, elle reprend l'essentiel de la première loi, mais elle ajoute deux nouvelles parties très importantes que les fonctionnaires du gouvernement fédéral auront le droit de travailler dans la langue officielle de leur choix. Et ça, c'est beaucoup de Québécois.
Oui.
Mais ça doit être ironique, mais c'est une partie de la loi qui n'aura pas été portée politiquement. Et une autre partie qui dit que le gouvernement fédéral a l'obligation de voir à l'épanouissement et au développement des communautés minoritaires de langue officielle au Canada.
Notamment les minorités anglophones au Québec.
Et francophones hors Québec. Et tout d'un coup, c'est devenu l'élément clé nouvelle loi sur les langues
officielles.
Est-ce
que ça ne crée pas une situation d'équivalence un peu artificielle entre la situation des anglophones au Québec et des francophones hors Québec? C'est-à-dire, ce ne sont pas des minorités de statut équivalent, quoi qu'en dise le droit fédéral, non?
Ah, vous avez tout à fait raison. Il y a un rapport asymétrique énorme entre les deux communautés. Si ce n'est qu'au Québec, il y a trois universités de langue anglaise dans une province, alors qu'en Ontario, il y a des universités bilingues, etc. Il y a des services de santé au Québec en anglais, alors qu'en français, hors Québec, c'est difficile. C'est-à-dire, c'est des rapports complètement asymétriques. L'anglais n'est pas une langue menacée au Québec, alors que le français est une langue menacée, peut-être au Québec, mais certainement hors Québec. Donc, il y a une asymétrie fondamentale, sociologiquement incomparable entre les deux communautés. Mais sur le plan politique, on a toujours, même en 1867, il y a une certaine symétrie catholique-protestant, etc. Il y a une asymétrie parce qu'on impose au Québec des obligations en matière de langue qu'on n'imposera jamais à l'Ontario, au Nouveau-Brunswick. Mais c'est une symétrie à bien des égards, qui a été contestée par les francophones hors Québec eux-mêmes dans les années 80-90, mais qui ne l'est plus du tout aujourd'hui. Du tout, du tout.
On évoque la question des francophones hors Québec dont l'identité a évolué avec le temps, qui se détache de la référence québécoise. Qui se définissent même comme francophones, donc qui reprennent les catégories de l'administration fédérale pour se définir finalement, qui se définissent à partir des modèles identitaires proposés par Ottawa. Est-ce qu'il existe néanmoins quelque chose comme une mémoire, même chez les plus jeunes, de ce qu'on pourrait appeler l'histoire du Canada français? C'est-à-dire le Canada français comme un des deux peuples fondateurs, le Canada français dans sa prétention à s'approprier le Canada dans son ensemble comme pays d'identité pour les francophones. Est-ce que ça existe encore comme mémoire, ou n'est-ce qu'un fanion mobilisé simplement pour la Saint-Jean et ainsi de suite?
Un peu des deux. mais je dirais que oui, il y a encore une mémoire, mais on est mal à l'aise avec cette mémoire. On ne sait pas trop quoi en faire, parce qu'en même temps, les communautés francophones se définissent beaucoup en fonction d'un certain discours de la diversité, veulent des immigrants. Et même dans les années 90, je me souviens, c'était un jeune Acadien qui était président de la Fédération des communautés francophones et acadiennes, M. Gino Leblanc du Nouveau-Brunswick, qui avait dit même, il faudrait peut-être laisser tomber le discours des peuples fondateurs, c'est plus très vendeur. Donc, il y a une certaine ambiguïté, mais en même temps, quand il y a eu le 400e de Champlain au Québec, l'année d'après, on a fêté le 400e de Champlain à l'extérieur du Québec, notamment en Ontario. Et là, il y avait une référence à l'histoire. On a commencé à revoir aussi le discours historique. Et on a des grands moments, là, des grands festivals, ou en tout cas des spectacles à grand déploiement où on essaie de raconter l'histoire, entre autres un qui s'appelle L'écho d'un peuple, avec des grands pans de l'histoire de la francophonie hors Québec. On essaie de raconter, de se donner un récit, de s'approprier. Et évidemment, on commence avec les Autochtones, et puis comment on avait des liens particuliers avec les Autochtones. Donc, on est un peu comme une éponge. On reprend tout ce qu'il y a dans l'air du temps, puis on essaie de réécrire son histoire.
Alors, Linda Cardinal, nous passerons à la pause pour quelques instants, et nous revenons ensuite pour poursuivre cette discussion sur le Canada français hors Québec, avec une question notamment sur la question du règlement 17 et les excuses récentes qui ont été portées.
Radio VM.
Chers amis, nous sommes de retour à La Vie des idées avec Mathieu Boccoté. Je reçois aujourd'hui Linda Cardinal pour parler de la situation des francophones hors Québec, selon la formule classique, mais nous avons vu dans la première partie de cette émission que cette manière de les nommer ne convient peut-être pas dans toutes les circonstances. J'avais annoncé à la fin de la première partie que nous reviendrions sur la question du règlement 17, dont on a beaucoup parlé en d'autres temps, qui est au cœur, par exemple, d'un roman historique bien connu, L'appel de la race de Lionel Groulx, et qui, par ailleurs, aujourd'hui, s'est revenu à l'avant-scène il y a quelques années, en fait, quand le gouvernement ontarien a proposé des excuses par rapport au règlement 17 qui limitait l'enseignement du français et de la religion catholique dans les écoles ontariennes, donc une politique assimilatrice pour les Canadiens français. Linda Cardinal, la question que j'aimerais vous poser par rapport à ça, c'est lorsque j'ai vu ces excuses, j'ai trouvé qu'elles étaient étrangement formulées. C'est-à-dire, on formulait des excuses à l'endroit des francophones comme élément de la diversité ontarienne et non pas aux Canadiens français comme un des deux peuples fondateurs. Donc, c'est comme si les excuses qui étaient formulées par rapport au règlement 17 étaient complètement recyclées dans le logiciel du multiculturalisme canadien. Les francophones avaient été persécutés en tant qu'une minorité parmi d'autres, plutôt que des excuses qui auraient été formulées dans la compréhension historique du règlement 17, c'est-à-dire dans la matrice dualiste, une volonté d'écraser un des deux peuples fondateurs et ainsi de suite. Est-ce que je me trompe lorsque je présente la chose ainsi, en disant que ce sont des excuses qui ont été passées à travers le tamis diversitaire plutôt qu'à travers la perspective dualiste? Et si je ne me trompe pas, quelle a été la réaction des francophones, des franco-ontariens par rapport à ces excuses liées au règlement 17?
Bien, par rapport à la perspective que vous suggérez, vous savez, depuis de nombreuses années en Ontario, les minorités francophones sont considérées comme une minorité parmi d'autres. Ils font partie du discours de la diversité. Ça fait 10-15 ans.
Mais ils ne protestent pas contre ça.
Non. Et en même temps, il y a une loi sur les services en français qui, elle, clairement est dualiste. Qui est une loi qui a été adoptée en 1986 avec un discours qui s'adresse uniquement aux francophones comme faisant partie de la dualité canadienne. Et il y a cette ambiguïté, encore une fois, au sein du discours gouvernemental. Et lorsqu'il y a eu des excuses, les Franco-Ontariens ont été très contents parce que ça leur permet de boucler la boucle. C'est une période de l'histoire qui est maintenant derrière eux. Mais ce qui a été étonnant, c'est qu'ils ont eu des excuses, mais ils n'ont rien demandé. Parce qu'habituellement, il y a toujours réparation.
C'est le logiciel pénitentiel, d'une certaine manière. C'est dans nos sociétés, c'est l'État qui s'excuse aux différentes minorités qui ont été offusquées d'une manière ou de l'autre. Mais donc, est-ce qu'il y avait une demande de réparation, une demande de pénitence depuis longtemps, une demande d'excuses?
Non.
Et donc, ça vient sans qu'ils les demandent de quelque manière que ce soit.
C'est arrivé par la voix d'un franco-ontarien du Nord, qui considérait que il fallait absolument que le gouvernement s'excuse. Et ça avait été présenté à la ministre Meyer il y avait plusieurs années antérieures, et elle avait refusé de prendre le dossier. Et il y a un nouveau député qui est arrivé, Glenn Thibault, un ancien du gouvernement fédéral qui était élu en Ontario, et lui a pris le dossier, il l'a amené à la première ministre qui a accepté de faire des
Wayne
excuses.
Qui l'a accepté, vous me corrigerez encore une fois, mais dans une perspective diversitaire.
Dans une perspective, oui, de la diversité, parce que c'est quand même quelqu'un qui porte beaucoup le dossier de la diversité,
qui l'incarne
aussi. Mais comme je disais, en Ontario, faut pas penser que l'Ontario adhère pleinement au discours dualiste ou en tout temps. Sur le plan fédéral, l'Ontario peut adhérer au discours dualiste, mais il ne faut pas exiger de l'Ontario qu'il devienne officiellement bilingue, par exemple, parce que c'était le troc de 82. On appuie 1982, on appuie la charte, mais ne nous demandez pas d'être officiellement bilingue. Nous, notre bilinguisme, il est pratique. Et en même temps, le fait qu'il y ait une ouverture à l'égard des francophones, c'est comme si ça constituait un levier pour tendre la main à toutes les minorités.
Mais alors, éclairez-moi, parce qu'une chose m'échappe vraiment là-dedans. Ça, je comprends très bien qu'à la grandeur du Canada, il y a une contradiction fondamentale. C'est-à-dire, d'un côté, il y a la loi sur les langues officielles qui est, qu'on le veuille ou non, dualiste. C'est-à-dire, mais c'est un dualisme qui n'est pas ancré dans une dualité nationale. Donc, c'est une forme de dualisme stratosphérique flottant, mais qui n'est pas ancré dans une reconnaissance des deux peuples fondateurs. De l'autre côté, il y a le multiculturalisme qui nous dit qu'aucune communauté ne surplombe une autre de quelque manière que ce soit. Bon. Mais dans le cas des francophones hors Québec, la question, puis surtout dans le cas de l'Ontario, ce qui me frappe, c'est à la rigueur, je peux bien comprendre que le gouvernement ontarien se fiche complètement de la perspective dualiste, on ne s'attend pas à autre chose, mais les francophones hors Québec n'ont-ils pas l'impression eux-mêmes, en Ontario à tout le moins, de sacrifier un discours, sacrifier une vision du monde, sacrifier une philosophie qui était autrement plus consistante pour appuyer leurs aspirations qu'à d'être un morceau de diversité?
Moi, j'ai l'impression, puis là, c'est mon analyse et c'est une hypothèse que je lance, mais je pense qu'il faut comprendre les différentes minorités dans leur province en fonction des cultures provinciales, des cultures politiques provinciales. Et l'Ontario se targue d'être la province pragmatique, mais je pense que les Franco-Ontariens ont adopté ce même type de comportement. Ils ont une approche probablement très pragmatique à l'égard du français, de la place du français en Ontario. Vous savez, on a l'expression en Ontario que la situation du français avance à petits pas. Parce qu'il faut jamais bousculer la majorité anglophone qui se sent étonnamment menacée par le français.
C'est original comme point de vue quand même.
C'est une majorité qui a du mal à digérer le français sur son permis de conduire ou sur sa carte de santé,
donc,
mais qui l'accepte.
Le vieil esprit WASP est encore présent en Ontario, notamment.
Ben, si on considère que les cultures institutionnelles sont importantes dans une société, ben, faut regarder dans chaque province la culture institutionnelle. Et en Ontario, cette culture institutionnelle, c'est vraiment une culture anglo-dominante. Le principe de l'anglo-conformité dans les provinces canadiennes anglaises, c'est très fort et ça l'a laissé un héritage. Et cet héritage...
Il survit au multiculturalisme officiel.
Il est systémique. Je sais que vous n'aimez pas ce mot au Québec, mais c'est un héritage. C'est-à-dire, l'anglo-conformité, il y a un anglo-conformisme systémique dans les... dans les institutions, dans les provinces canadiennes anglaises, ce qui fait qu'il y a une pression à l'anglais tout le temps.
Donc, est-ce qu'on pourrait dire que la culture politique fédérale est multiculturaliste, mais les cultures politiques provinciales demeurent davantage accrochées à la vieille idée du Canada anglais?
Je dirais que ça dépend où. Parce que dans les provinces de l'Ouest canadien, ça va être différent. Moi, je dirais qu'en Ontario, il y a une certaine idée de ce vieux Canadien-anglais. Il y a un vieux fond Canadien-anglais, absolument. Il y a le fond multiculturaliste autour de Toronto. Regardez le Nouveau-Brunswick, c'est une autre culture politique, où là, elle est beaucoup plus dualiste,
oui.
Où là, la loi 88 qui confirme l'égalité des communautés linguistiques, c'est une loi qui renvoie au peuple fondateur. Et il n'y a pas un discours de la diversité qui est aussi fort dans les provinces des Maritimes, parce qu'il n'y a pas une immigration aussi forte qu'à Toronto, par exemple. Et cette diversité dans les provinces de l'Atlantique ou les provinces maritimes, ben, c'est les Irlandais, les Écossais, les Loyalistes, c'est les Acadiens, les Mi'kmaq, c'est-à-dire c'est une autre réalité.
On pourrait dire
que
c'est la vieille diversité presque ethno-nationale du Canada.
Oui, oui. Et en fait, pour M. Trudeau aussi, cette diversité doit être importante parce que dans son discours de nation, de redéfinir la relation de nation à nation, on retrouve aussi cette réalité. Et pour revenir à ce que vous disiez tout à l'heure, que la loi sur les langues officielles, en fait, s'inscrit pas dans les peuples fondateurs, etc., je pense que le compromis canadien en matière de langues officielles, où on combine la diversité et puis le bilinguisme, c'est de dire que le français et l'anglais, c'est les deux langues de citoyenneté. C'est les deux langues d'inclusion. C'est les deux langues par lesquelles s'exprime la diversité. Ce qui fait que on revient malgré tout à un certain dualisme qui doit s'ancrer dans une histoire, mais on veut jamais la nommer. Et quand on la nomme, c'est « The Story of Us ».
Oui, oui, bien sûr, bien sûr.
c'est une histoire qui est complètement biaisée. On n'accepte même pas cette vision dualiste ou trialiste dans le récit même du Canada. Et c'est peut-être un peu ça qui est dommage du Canada en ce moment, c'est qu'il est incapable d'avoir un récit qui s'ancre dans cette diversité profonde, dirait Charles Taylor, dans cette diversité profonde où on retrouve les Autochtones, les Canadiens français, les Québécois, les Canadiens anglais et tout ce que cette société est devenue par rapport à la diversité, mais c'est cette société, ce qui la tient encore, c'est le fait qu'il y a du dualisme, c'est le français et l'anglais.
Vous dites qu'il faut tenir compte de l'expression des Canada français résiduels ou des Canadiens francophones hors Québec en tenant compte des cultures politiques provinciales. Alors, on a évoqué la question de Nouveau-Brunswick, on a parlé évidemment de l'Ontario, vous avez évoqué brièvement le Manitoba, mais plus largement quand on parle de l'Ouest canadien, est-ce qu'on se... quelle est la situation globale? On dit quelquefois qu'il y a des poches de résistance dans le nord de l'Alberta, il y a des villages, pour le dire ainsi, il y a des lieux de concentration géographique qui font en sorte que le français parvient à survivre sur le plan institutionnel. Est-ce que dans l'Ouest canadien, il y a une dynamique très particulière pour le fait français, ou est-ce que c'est simplement une version plus diminuée de la dynamique ontarienne?
Disons qu'il y a des parallèles à faire avec la dynamique ontarienne. Parfois, la dynamique ontarienne ressemble à la dynamique de l'Ouest. C'est pas nécessairement l'Ouest qui copie l'Ontario, parce qu'on est dans des situations de minorisation beaucoup plus fortes, par exemple, qu'au Nouveau-Brunswick. Mais l'Ouest canadien est particulier, puis moi, je dis l'Ouest canadien, mais sans doute quelqu'un qui vient de l'Ouest canadien dirait il y a les franco-manitobains, oui. Il y a les francescois, il y a les franco-albertains, parce qu'évidemment, l'Alberta, c'est pas la même culture politique que le Manitoba, même si le Manitoba a tué l'Ouriel.
Oui, oui, oui.
Au Manitoba, il y a eu quand même des orangistes qui ont été très fortement anti-francophones, anti-catholiques. En Saskatchewan, il y a eu des persécutions de francophones et catholiques. Il y a eu du Ku Klux Klan en Saskatchewan. Puis en Alberta, mais il y a aussi un conservatisme à l'américaine qui est très fort. Et ce qui est intéressant en ce moment dans ces provinces, c'est que l'Alberta a quand même adopté récemment une politique à l'égard des services en français et une politique qui reconnaît le rôle des gouvernements de favoriser l'épanouissement et le développement de sa propre minorité de langue officielle. Donc, c'est quand même un discours de reconnaissance qu'on n'a jamais vu. La Saskatchewan songe à une politique, l'Alberta aussi. Et donc, ça, c'est quand même des développements auxquels on n'aurait jamais pu penser par le passé.
Alors, je me permettrai une question qui est celle, mais vous me direz, qui est probablement celle qui porte tous les préjugés possibles d'un souverainiste québécois. J'ai l'impression que le Canada anglais reconnaît l'importance du français après l'avoir piétiné, écrasé, dominé. Et une fois qu'il est agonisant, il dit « on est là et on a quand même quelque chose à vous offrir pour vous tenir en vie. On est prêt finalement à vous offrir les béquilles nécessaires après vous avoir cassé les jambes.
Oui. »
Est-ce que c'est une image qui est vraiment ancrée dans une vision très souverainiste des choses, c'est-à-dire l'avenir du français en Amérique, c'est au Québec, puis pour le reste, on va vous donner un coup de main, mais c'est foutu. Ou est-ce qu'il y a une réalité des choses là-dedans, c'est-à-dire, après avoir tout fait pour en finir avec leur francophone, maintenant, ils leur offrent gentiment quelque chose comme une main tendue. C'est la main tendue au type qui est à peu près noyé.
Oui, mais je pense que il y a une dimension morale très forte, c'est clair, parce que une dimension normative. Parce que quand on est une minorité, notre arme, notre meilleure arme, c'est la morale, c'est
ouais,
de dire, c'est d'aller chercher, de demander aux dominants devant soi de faire preuve de bonne volonté. Et ça, c'est clair que ça doit jouer beaucoup. Mais ces dernières années, il y a eu aussi des jugements de la Cour suprême qui ont rappelé qu'il y avait eu un pacte, qui ont rappelé l'importance du fédéralisme, qui ont rappelé aussi que les francophones ont eu des droits, mais parce que ces droits-là n'étaient pas écrits, ils ne valaient pas grand-chose. Et donc, c'est un incitatif pour rappeler à ces gouvernements que ces francophones avaient des droits, mais ils n'étaient pas écrits. Donc, maintenant, c'est à vous de les écrire. Et donc, il y a une force morale derrière tout ça. Et un lien à l'histoire qu'on est obligé de reconnaître, même si on est dans des provinces où on va privilégier le multiculturalisme. Même le Manitoba a reconnu les langues autochtones. La Colombie-Britannique reconnaît les langues autochtones bien avant le français. Mais il y a une ouverture qui s'est produite et liée à ces enjeux, mais aussi liée au fait qu'aujourd'hui, même si la langue au Canada demeure un enjeu pour lequel on fait des compromis, c'est-à-dire pour le Canada anglophone, de passer sur le plan international pour des gens qui sont réfractaires aux minorités, notamment leur minorité aux francophones, qui sont pas capables de respecter les droits des minorités alors qu'on se vante sur le plan international d'être le sanctuaire des minorités. À un moment donné, il n'y a plus de logique à ce genre de discours-là. Donc, moi, je me dis que le fait aussi qu'on utilise le langage des droits, que ces minorités-là ont des droits, sans doute que ça doit jouer, mais toujours dans une démarche de faire un compromis. Hein, l'idée, c'est pas de reconnaître des droits bétonnés, mais les minorités en ont dans le domaine de l'éducation, partout à travers le Canada, sauf qu'ils sont toujours devant les tribunaux pour les faire respecter, notamment dans l'Ouest. Mais c'est qu'à un moment donné, ça devient... C'est onéreux pour tout le monde. Et ça donne quoi de toujours taper sur la tête de ces francophones? Ils vont retourner devant les tribunaux. Ils vont continuer à invoquer le discours des droits pour inciter les gouvernements à faire toujours des compromis. Donc, je pense qu'avec les changements de gouvernement aussi, ça a joué. En Alberta, il y a un gouvernement NPD qui s'est montré beaucoup plus ouvert, où il y a des gens qui parlent français. Puis, il ne faut pas oublier que l'Alberta, Colombie-Britannique, c'est les provinces où l'immersion est le plus populaire. Donc, c'est assez complexe, c'est assez ambigu, mais il y a comme des ouvertures par moment qui font en sorte que les gouvernements changent et là, les francophones sont capables d'aller faire passer certains projets, certaines idées et d'invoquer toujours, je dirais, la force morale du droit des minorités.
Est-ce que les francophones hors Québec se sentent opprimés? Est-ce qu'ils se sentent diminués? Est-ce qu'ils se sentent persécutés d'une manière ou de l'autre? Enfin, d'abord, en tout, que font-ils de la mémoire de leur persécution, disons ça ainsi? Est-ce qu'ils, lorsqu'ils se racontent leur histoire à eux en tant que communauté francophone, c'est une histoire de lutte contre les persécutions? Ou est-ce qu'ils ont gommé ça? Et est-ce qu'aujourd'hui, ils se sentent persécutés ou dominés d'une manière ou de l'autre?
Mais quand vous dites les francophones hors Québec, moi, je pense qu'il faut préciser. Si vous êtes un groupe de juristes en milieu minoritaire, puis vous allez présenter une cause devant les tribunaux, vous allez avoir le discours le plus sombre possible à bien des égards. Et comme dans la cause Caron, je ne sais pas si vous n'avez entendu parler de la cause Caron, qui est cette célèbre cause qui vient d'un Franco-Albertain qui a refusé de payer sa contravention,
oui, oui, sa contravention
en anglais,
oui,
parce qu'il dit « moi, j'ai le droit d'avoir une contravention en français ». Ça a donné lieu à c'est-à-dire, et il a contesté cette contravention en prétextant qu'il y a une proclamation royale entre les métis, les francophones et la couronne qui reconnaissait nos droits. Ça a donné lieu à toute une nouvelle recherche historique sur cette proclamation royale. Et en même temps, ben là, c'est-à-dire, a fallu utiliser le discours, ben on s'est fait assimiler, on s'est fait opprimer, on a été persécutés, etc. Par contre, dans d'autres moments, quand les francophones veulent se faire reconnaître, ils vont dire « on est dynamique ». On est une communauté bien vivante. On contribue parce qu'il y a eu tout le discours, surtout à l'époque du gouvernement Harper, qui disait ben, « montrez-moi votre valeur économique et puis on va vous appuyer ». Donc là, c'était le discours « non, non, on n'est pas en train de s'assimiler, il faut pas parler d'assimilation, il faut parler de notre valeur ajoutée ». Et ça, c'est très fort aussi en milieu minoritaire francophone, c'est qu'on est une valeur ajoutée. On ajoute quelque chose à cette province du fait qu'on parle français.
Mais est-ce qu'ils ont l'impression, d'une manière ou l'autre, d'être dans une lutte perpétuelle? Parce que j'ai l'impression, si je regarde ça du côté du point de vue du Québec, ils ne peuvent exister que dans un combat permanent. Est-ce qu'ils se vivent comme tels ou est-ce que cette idée d'un combat permanent, donc un combat, ça implique minimalement d'avoir une altérité, un conflit, ça implique d'avoir quelqu'un qui n'est pas nécessairement d'accord avec nous pour nous donner ce qu'on veut. Est-ce qu'il y a ce sentiment de vivre sous le signe du combat permanent ou est-ce que cette vision est encore une fois un plaqué du souverainisme québécois à la condition minoritaire au Canada?
Mais encore une fois, moi, je pense que c'est une vision qui est ambiguë, qui à la fois... veut montrer que tout est beau et qu'on est en train de s'épanouir et de se développer et qu'on a besoin des outils pour s'épanouir et se développer. Et en même temps, le vocabulaire de la lutte est très présent. Pensez, par exemple, on a célébré cette année le 20e anniversaire de la lutte des francophones pour sauvegarder l'hôpital Montfort à Ottawa, qui était le seul hôpital universitaire francophone hors Québec, c'est-à-dire à l'ouest du Québec. Et quand il y a eu ces célébrations, 22 mars dernier, ben là, c'était vraiment le discours de la lutte. Hein? Les batailleurs, on part en guerre contre un gouvernement ennemi, etc. Là, le discours revient. Mais donc, ça dépend toujours du contexte dans lequel on s'inscrit. Mais c'est sûr que ce discours-là est là. Et les gens, quand ils disent « il y a encore du chemin à faire », hein, c'est l'expression consacrée pour dire, dans le fond, qu'on est toujours en train de se battre, puis encore du chemin à faire. Comme s'il y avait une progression qui fait qu'un jour, on va arrêter de se battre.
Et devant la réalité de l'assimilation, quelle est... parce que l'assimilation, c'est, pour ce que j'en sais, c'est d'une brutalité, c'est-à-dire à chaque génération, on perd une proportion significative de francophones. Ça ne veut pas dire que M. Leblanc devient M. White et Mme Boisvert devient Mme Greenwood. À tout le moins, c'est plus comme ça que ça se vit. Mais l'assimilation est une réalité partout, oui, au Canada. Comment c'est vécu? C'est-à-dire, comment on peut conjuguer ça avec le discours lénifiant, irénique, comme quoi, finalement, ça va bien, puis les francophones, les Québécois, ouais, sont fous de nous imaginer en mauvaise situation?
Ben moi, je pense qu'il y a un déni de l'assimilation en milieu minoritaire. Parce que de reconnaître l'assimilation, c'est-à-dire, ça serait un aveu d'échec. Et donc, on la reconnaît du bout des lèvres, parce que quand on revendique des droits scolaires, bien, c'est pour lutter contre l'assimilation. Quand on revendique une université francophone, c'est pour lutter contre l'assimilation. Quand on revendique des services en français, c'est toujours pour lutter contre l'assimilation. Sauf qu'on ne va pas le nommer de cette façon-là, parce que c'est vu comme un discours de perdant. Et alors, on va plutôt dire, bien, c'est pour notre développement. Donc, il y a tout un autre vocabulaire qui a été développé.
Alors, vous me pardonnerez d'être insistant, mais quand on leur met au visage, disons ça comme ça, pardonnez la brutalité des termes,
oui,
mais quand on leur met au visage, ça va pas bien. Vous perdez des gens à chaque génération, une,
oui,
proportion qui n'est pas marginale. Vous perdez des... on dit quelquefois 40%. Est-ce que, je sais pas si le chiffre est bon ou fait partie seulement de la mythologie.
Mais dans les dernières prédictions Statistique Canada pour les projections pour 2036, on dit bien c'est au moins 40 à 47% des francophones qui s'assimilent.
Alors, quand on évoque ça, bon, j'ai en tête une scène très belle racontée par Fernand Dumont, Où il parlait de métis francophone quelque part dans l'Ouest canadien, peut-être au Manitoba, qui continuait d'aller à la messe en français, mais qui ne parlait plus français. Ouais. Puis quand on leur demande pourquoi vous allez à la messe en français, ils répondent « But we're French Canadian ». Les assimilés se vivent-ils eux-mêmes comme Canadiens français? Est-ce que la conscience canadienne-française ou la conscience francophone survit à l'assimilation quelquefois? Me semble-t-il, c'est la donnée centrale de cette de la réalité du Canada français hors frontières, hors Québec. C'est il y a quelque chose comme une assimilation qui, selon la formule consacrée au rouleau compresseur, est-ce qu'il me semble-t-il, ça devrait être vécu sous le signe de la conscience tragique. Or, si je vous comprends bien, ce n'est pas vécu sous le signe de la conscience tragique. On décide plutôt de nier ce qui arrive pour ne pas avoir à avouer l'éventualité d'une disparition.
Moi, je pense qu'individuellement, les gens le vivent de façon comme un drame, souvent, comme une tragédie. D'autres vont dire, ben écoutez, c'est comme ça. Puis il y en a d'autres qui sont fiers de s'assimiler puis de parler anglais. En 2003, quand il y a eu le premier plan d'action du gouvernement fédéral pour la promotion des langues officielles, il y avait une reconnaissance des enjeux de l'assimilation. Et on s'était donné des objectifs à l'époque. J'ai oublié l'objectif, mais on s'était dit, il faut s'assurer de la vitalité du français, il faut investir dans l'apprentissage du français, il faut investir dans la promotion du français, il faut renforcer les écoles, l'enseignement du français, etc. Il y avait cette volonté. Ce plan d'action a duré de 2003 à 2008 et depuis, c'était à peu près n'importe quoi. On n'a plus vraiment, on s'est plus vraiment préoccupé de cette question-là parce que, comme je vous disais tout à l'heure, c'est montrez-moi que vous avez une valeur économique, que ça sert à quelque chose, le français. Ce qui pourrait être un incitatif pour pas s'assimiler. Mais c'est pas assez, c'est des vœux pieux de dire ça, montrez-nous que vous allez pas vous, que vous valez quelque chose. En fait, ça vient jouer sur son estime parce que déjà il y a un doute tout le temps chez les francophones, est-ce que ça vaut la peine? Parce qu'il y a beaucoup de francophones qui vont vous dire, moi je me lève le matin et je prends la décision tous les matins de parler français.
Alors, il nous reste à peine 3 minutes, mais j'ai une question qui m'obsède depuis longtemps, je vous la poserai. Bernard Landry confessait assez librement, lorsqu'on lui demandait son fantasme, d'avoir presque une politique du retour, disons ça comme ça. C'est-à-dire, tout comme, d'une certaine manière, il y a cette idée que tous les Juifs auraient vocation à pouvoir revenir ou venir en Israël, mais tous les francophones du Canada devraient pouvoir venir ou revenir au Québec d'une manière ou de l'autre. Est-ce que cette idée du retour a déjà habité le Canada, les Canadiens français hors Québec? Est-ce que c'est une idée... Est-ce que certains ont eu l'idée de revenir au Québec d'une manière ou de l'autre, en se disant, bon, ça fait 3-4 générations qu'on n'y est plus, mais là, on y revient parce que le pays au fond de nous-mêmes, il est là. Est-ce que cette idée d'un grand retour au Québec a déjà traversé les consciences au Canada français ou est-ce que c'est une pure lubie de souverainistes hégémoniques?
Moi, je pense que collectivement, ça fait pas partie de l'imaginaire parce que les francophones hors Québec, c'est plutôt l'inverse. Ils essaient de montrer qu'ils sont hors Québec depuis 400 ans. Ouais, en Ontario, les Acadiens, on peut pas demander aux Acadiens de retourner.
Les Acadiens, c'est une situation particulière.
C'est eux, la société distincte. Les gens, les francophones dans l'Ouest, c'est-à-dire, sont venus au Québec, mais très peu de temps. C'est-à-dire, on fait partie de les grandes vagues migratoires du Québec qui sont allées aux États-Unis et souvent sont remontées par les provinces de l'Ouest, sont allées dans le Nord, sont allées au Yukon. Donc, ces francophones, à bien des égards, sont pas toujours très enracinés dans le Québec. Mais il y a une proportion quand même de francophones qui vient vivre au Québec, qui déménage au Québec. Et le Québec, c'est pas juste Montréal. Hein. Vous avez beaucoup d'Ontariens, de Franco-Ontariens qui sont déménagés à Gatineau.
Oui, bien sûr.
Et qui vivent à Gatineau, mais qui se sentent encore Franco-Ontariens souvent. Mais il y a beaucoup de gens qui déménagent. Mais bon, aller de Ottawa à Gatineau, souvent, c'est très utilitaire. Ça coûte beaucoup moins cher vivre à Gatineau que à Ottawa. Mais je dirais que chez certains individus, oui. Et on le voit chez les artistes. Ils savent qu'il faut qu'ils viennent au Québec. Il y a des franco-ontariens d'une certaine génération qui sont venus vivre au Québec, qui sont devenus des célébrités souverainistes aussi.
Donc, Pierre de Bellefeuille, Jean Thiéblet.
Oui, et puis Marchand.
Oui. Alors, Linda Cardinal, je vous remercie infiniment pour votre passage aujourd'hui à La Vie des idées. Alors, c'était une émission consacrée au rapport, à la situation des francophones hors Québec et à leur rapport un peu avec le Québec. Merci pour votre présence.
Je vous en prie.
Et, chers amis, nous nous retrouvons la semaine prochaine pour un prochain épisode de La Vie des idées. Merci infiniment.